Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour, voici Cinérama du mercredi 5 mai, votre émission hebdomadaire de cinéma sur Divergence FM. Bonjour Martin.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, eh bien, on va développer le sommaire comme toujours. Alors c'est moi qui vais m'y coller. On commencera avec Gaspard Noé, sa filmographie à l'occasion de la sortie de son seulement troisième long métrage, hein, Hunter the Void, qui sort aujourd'hui. Il sera question aussi de Todd Solondz avec son film Life During Wartime. Et puis une petite interview, celle de Malek Bensmaïl avec La Chine est encore loin, documentaire et bien sûr l'Algérie, la société algérienne moderne qui est actuellement projetée au cinéma Diagonal. On essaiera aussi d'avoir Marc Batty qui est le directeur du festival des très courts, manifestation qui a lieu dans divers pays et qui a notamment lieu et bien à Montpellier. Ce sera ce vendredi soir qu'on pourra voir et bien la soirée d'ouverture. C'est un festival donc de courts métrages de moins de 3 minutes hors générique, donc comme on a des petits soucis de ligne, on verra si le hasard fait bien les choses.
Voilà, et pour ma part, donc, comme chaque semaine, pendant que Vincent va nous parler, comme il l'a annoncé, de petits films afghans, confidentiels, du cinéma indépendant islandais, et nous faire écouter une interview d'un obscur réalisateur libyen, moi je vais profiter de Cinérama pour vous entretenir de vrai cinéma, celui avec un grand C, celui qui fait la couverture de la presse de référence comme Studio Ciné Live ou L'Écran Fantastique. Aujourd'hui, je vais encore une fois vous entretenir de budgets à 9 chiffres, de stars hollywoodiennes et d'effets spéciaux numériques, bref, de ce qu'on appelle communément les blockbusters. Donc cette semaine, je me suis particulièrement délecté devant deux films qui rentreront sans aucun doute au panthéon du 7e art. Donc je veux parler bien sûr du Choc des Titans de Louis Leterrier et de Iron Man 2 de Jon Favreau. Mais donc, avant de vous entraîner dans cette spirale d'action et d'aventure plus spectaculaire les unes que les autres, je vous propose rapidement de faire une petite pause en Technicolor avec un événement. Donc, c'est la reprise au Diagonal du grand classique de Michael Powell et Emmerich Pressburger, Les Chaussons Rouges. Voilà, une ressortie. Cette semaine, vous aurez donc l'occasion d'aller découvrir ou redécouvrir ce film qui a bénéficié d'une restauration numérique minutieuse et qui devrait à nouveau briller de mille feux devant vos petites mirettes éblouies. Alors, pour rappel, le Technicolor trichrome a été mis au point en 1932. Le procédé consistait à filmer avec trois pellicules positives, chacune sensible à une couleur en particulier, donc rouge, vert et bleu. Et au développement, les trois films étaient superposés et donc l'ensemble du spectre était ainsi reproduit. Alors c'est Walt Disney qui, le premier, a utilisé cette technique sur ses longs métrages d'animation avant que d'autres réalisateurs s'en emparent. Voilà, donc Les Chaussons Rouges, c'est la 10e collaboration entre Michael Powell et Emmerich Pressburger et ce film nous plonge dans le monde de la danse à travers les destins croisés d'une danseuse, d'un compositeur et de leur impresario qui vont sacrifier leur destin pour donner vie à un projet ambitieux, l'adaptation en ballet du conte de Hans Christian Andersen, Les Chaussons Rouges. Voilà, donc c'est une véritable déclaration d'amour à la création artistique et ce mélodrame fascinant a bouleversé toute une génération de réalisateurs parmi lesquels Martin Scorsese, Brian De Palma, Francis Ford Coppola et bien d'autres. Voilà, donc ça c'est un film à aller découvrir dès demain. Dès demain, vous avez des séances à 17h30 jeudi, vendredi, dimanche et mardi. Voilà, 4 séances cette semaine. Je vous invite fortement à y aller.
Et c'est donc au Diagonal. Et puis, en fin d'émission, on reviendra aussi sur les autres événements, puisqu'il y a d'autres avant-premières cette semaine. Mais on débute cette émission Cinérama avec Gaspard Noé. Un gros plan donc sur ce réalisateur qui fait partie de ceux qui ne transigent pas avec la forme, qui, même plutôt que d'appeler un chat, eh bien, Noé va appeler un chat sauvage avec des crocs, un poil hérissé, et puis une fin de loup. Alors, son style est reconnaissable, autant pour une esthétique que du cadre singulière, le montage avec des intertitres parfois informatifs et bienveillants, des décadrages dans l'image quand ça n'est pas le film entier, qui est monté à l'envers, pour le son aussi, laissant une large place à l'ambiance et surlignant quelques séquences avec ça. style reconnaissable donc d'un film de Gaspard Noé. Alors il est très éloigné du cinéma bourgeois parisien et ses bons sentiments, et c'est plutôt salutaire car cette sorte de cinéaste se reproduit à grande échelle. Et à bientôt 47 ans, Enter the Void est seulement son troisième long métrage. Alors il est né en Argentine d'un père peintre et d'une mère assistante sociale et passe son enfance entre Buenos Aires et New York, et c'est à l'âge de 12 ans qu'il arrive en France. Alors il sort d'un bac L, philo, avant d'entrer à l'école de cinéma Louis Lumière de Paris, et une fois le diplôme en poche, plutôt que de tourner, eh bien il continue à étudier la philosophie et devient assistant réalisateur. Il réalise ses premiers courts-métrages dans les années 80, alors d'abord Tintarella di Luna en 85, l'histoire dans un village on ne sait où, d'une femme qui quitte son mari pour rejoindre son amant de l'autre côté de la rivière. C'est un coup d'éclat, une œuvre de jeunesse qui laisse apparaître les thèmes récurrents de Gaspard Noé, la sexualité, la bestialité et puis la morale. Acheté par Canal+, il a été diffusé à l'antenne juste avant Eraserhead, le premier long métrage de David Lynch. Alors, il tourne en 87 Pulpe amère, alors, je ne sais pas comment on le prononce d'ailleurs, Pulpe amère peut-être, l'histoire d'un homme qui pénètre dans la chambre de sa bonne et tente de la violer, tandis qu'un feuilleton radiophonique décrit les pensées d'un homme pris dans une passion amoureuse. Amour contrarié, donc c'est aussi un des aspects de la thématique de Gaspard Noé. Alors d'amour, il sera question dans sa vie, puisque à cette période, eh bien, il rencontre Lucille Adzia-Lilovic, réalisatrice, je savais que j'allais me planter à un endroit en fait, je ne savais pas où, issue de la Fémis. En 91, il monte les cinémas de la zone, c'est leur société de production, et c'est avec cette société de production qu'il sort le dérangeant Carnet, moyen-métrage qui raconte l'histoire d'un boucher, interprété par l'excellent Philippe Naon, pas commode, le boucher, élevant seul sa fille handicapée mentale, et qui va finir par commettre un meurtre croyant que sa fille a été abusée.
Je vais le tuer. Je vais le tuer.
Il n'avait pas le droit. Non, il n'avait pas le droit.
Je vais le tuer, celui-là.
Pas avec ma fille. Il va crever, ça c'est sûr, il va crever. Et je sais comment. L'enculé, je vais le saigner. Je vais vraiment le saigner. Le voilà, il attend. Il fait semblant de rien. Comme si j'étais con. Il va se faire passer pour une victime. Oh, c'est un malin. On donne toujours raison aux victimes. Du calme. Il faut réfléchir. Voilà, ça y est, ça gicle. Mais le sang ne m'impressionne pas. Non, il croit qu'il va se tirer. Mais je rêve. À l'orphelinat, on m'avait déjà appris la loi du plus fort. C'est par la force que j'ai gagné le territoire. Mais des fois, ça ne suffisait pas de montrer mon poing, il fallait sortir le canif. Devant le couteau, on incline la tête. C'est ça. C'est bien ça qu'ils m'ont dit. Mais des fois, j'ai été trop loin. Je hais la violence. Personne ne l'aime. Mais il faut en passer par là.
Arrête ! C'est pas lui !
Mais pourquoi est-ce qu'il ne veut pas mourir ? Quoi, il a peur ? De toute façon, il y passera. C'est écrit sur sa gueule. Pourri !
Alors, la haine qu'on entend, eh bien, n'est peut-être rien comparé à ce qu'on voit à l'image. Hein. Ce sont des images violentes. Enfin, tout simplement, il l'égorge. Alors, discours en voix off, multiple, on l'a entendu, hein, in et off. Plan saccadé, tonalité rouge dans l'image, décadrage, intertitres, scène violente et le discours qui va avec. Alors, on va écouter un autre extrait de ce premier moyen-métrage. On pourrait intituler ça « Le sens de la vie ».
J'aurais tellement aimé qu'elle m'appelle papa, au moins une fois dans ma vie. Mais non. Tout ce que j'aurais aimé dans la vie, je n'ai jamais eu. Pas de mère, pas de femme. Et même ma fille, je ne l'ai pas vraiment eue. Mais elle, je l'ai aimée. C'était la chair de ma chair. Le sang de mon sang. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à m'installer dans un bled pourri avec cette grosse salope. Elle a eu ce qu'elle voulait. La même chose que toutes les femmes, d'ailleurs. Un bébé qui lui pompe les seins, qui grandisse et la protège jusqu'à la mort. C'est tout con à faire, et ça leur donne l'impression que leur vie a un sens. Comme si la vie pouvait avoir un autre sens que sa propre survie. Le monde, c'est chacun pour soi. Un type tire sa crampe, et pour un orgasme de 9 secondes, son enfant doit morfler pendant 60 ans. Mais la grosse, est-ce qu'elle se rend compte que l'existence de son enfant sera encore plus nulle que la sienne ? Sûrement qu'elle a calculé que ce bébé lui torchera le cul quand elle sera vieille. C'est sûr que c'est pas moi qui vais lui tenir la main dans son lit de mort. Oh non. Mais moi, je vais lui pomper le cul. Je vais le ramener tellement fort qu'il va faire une fausse couche. Ouais. Si je l'encule assez fort, je pourrais épargner à l'innocent 60 ans de calvaire. Voilà ma mission dans ce monde. Sauver cet avorton qu'elle veut faire pousser dans ses tripes. Je l'encule. Je vais tous les enculer. Encore plus fort qu'ils ne l'ont fait. Et alors, elle veut pas crier ou quoi? Je vais te la faire crier, moi. Crie! Vas-y, crie! Espèce de vache! Crie! Crie!
Voilà, donc j'avais oublié de préciser qu'il fallait éloigner les enfants du poste. Alors il tentera de produire une version longue de ce qui reste un vrai coup d'éclat, mais il faudra attendre 98 pour que sorte enfin Seul contre tous, qui sera plus que la version longue de Carnet. On y retrouve en fait le boucher qui a purgé sa peine et qui est toujours haineux. Il en veut à tout le monde, carrément raciste et misogyne. Le personnage est toujours interprété par Philippe Naon. Alors ce film laisse certains spectateurs sur le carreau. Le personnage évolue dans un monde prolétaire où tout a foutu le camp. Dans le discours, il est question de notre société, de la vie et la souffrance et de la pensée. Alors une pensée abattue, un type qui se bâtit une morale avec ses propres moyens, soit un pistolet. C'est un film profondément nihiliste, pas seulement provoquant, et qui prolonge ce qu'on avait vu à l'œuvre d'Encarné.
Déjà 2 semaines que je suis là, et finalement, depuis la tôle, j'ai jamais été aussi peinard. Ici, c'est pas pire que la prison. C'est même plutôt mieux. Sauf l'odeur. J'aurais jamais pensé que les vieux pouvaient chlinguer autant. En tout cas, les 2 pétasses dans leur HLM, je les supporte plus. Faut pas qu'elle croie que je vais me laisser faire comme ça. Mais voilà, c'est la grosse qui a le fric. Et parce qu'elle a le fric, cette conne se croit tout permis. Mais c'est comme toujours. Chacun défend son fric. Chacun défend son steak. Et personne ne le fera pour toi.
Seul contre tous, on le répète. Alors voilà, c'est un film qui a remporté de nombreux prix à travers les festivals du monde entier. Arrive enfin Irréversible en 2002, qui lui aussi va diviser les spectateurs. Et comme Noé, depuis le début à ses entrées à Cannes, eh bien, il y sera en sélection officielle. Alors comment reconnaît-on au son un film de Noé? Tout à l'heure, je vous en ai montré un extrait, et là, ça donne ça. On écoute. Voilà, ça donne le tempo donc au générique en fait qui apparaît, générique de fin. Alors on sait tous que le plan séquence montrant le viol dans un tunnel piéton, viol de Monica Bellucci, en a traumatisé plus d'un et plus d'une. Alors l'histoire est simple et c'est encore une affaire de morale. Un viol est commis sur la femme de Marcus, Vincent Cassel, et celui-ci va tout tenter, accompagné par l'ex-petite amie de sa femme, pour retrouver le violeur. Un violeur qui se fait appeler Le Ténia et qui a son repère dans une boîte de nuit qui s'appelle le Rectum. On voit tout de suite bien la finesse de Gaspard Noé. On ne s'étonne pas qu'il soit ami avec Yann Kounen, le réalisateur de Doberman. N'empêche, Irréversible n'est pas seulement provoquant, mais original et audacieux. Le film est monté à l'envers et commence par la fin, générique compris. Et s'il vous plaît, même les mots sont inversés. Alors si on voit les personnages qui cherchent Le Ténia, on ne sait pas ce qu'a fait Le Ténia et on le découvre qu'ensuite. C'est un film à rebours, tourné en 12 plans séquences, parfois avec une caméra virevoltante qui peut donner le tournis. Il s'agit alors en fait de faux plans séquences permis par le numérique. Et cette manière en tout cas d'appréhender l'histoire fait d'Irréversible une œuvre à part qui prend en tenaille. On part de la violence pour non pas arriver à la cause de cette violence, mais à un événement qui pourrait en être le fondement. L'homme, le seul être digne de morale. Et on écoute un passage.
La personne qui s'est fait agresser tout à l'heure, c'est quelqu'un que vous connaissez ? Ça n'a pas l'air d'aller. Dur. Je crois toujours que ça arrive qu'aux autres. Puis quand ça lui tombe dessus, on perd les pédales. On compte sur la police alors? Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire la police? Vous savez très bien qu'ils vont rien faire. Hein? Ils vont le retrouver, ils vont le mettre en prison, ils vont lui donner à manger, ils vont l'habiller, ils vont le laver, ils vont lui donner un médecin. Votre ami tout à l'heure, il a pas eu le droit au médecin. Hein?
Qui t'es, toi?
Qui je suis? Jusqu'à preuve du contraire, là, je vais devenir ton meilleur ami. Je peux t'aider à le retrouver, si tu veux. Je sais pas, vous avez l'air de gens corrects, bien habillés. Apparemment, vous avez les moyens. Si vous avez un peu d'argent, on peut vous aider à vous venger. Malgré ça, elle a fait couler le sang. Le sang appelle la vengeance. La vengeance, c'est le droit de l'homme.
Voilà, moment important du film. La vengeance, c'est le droit de l'homme. Et là, eh bien, forcément, ça se substitue à toute morale. Irréversible à une base scénaristique très simple. Le moment que l'on vient d'entendre est donc un des moments où tout bascule. La haine, encore une fois, va être le moteur du personnage de Marcus. Mais à mesure que le film avance, ou recule, c'est selon, et passé le plan séquence du viol, la violence s'éloigne peu à peu. Et on retrouve le discours et la volupté. Une brillante séquence très longue que l'on a raccourcie se déroule dans le métro. Au milieu des voyageurs, une discussion s'engage entre Alex, Monica Bellucci, la volupté, Marcus, son compagnon actuel, l'impulsif, et son ex, interprété par Albert Dupontel, prof d'histoire, le raisonnable. Un dialogue sur le plaisir sexuel finit donc le discours dévalorisant et haineux de seul contre tous. On se détend enfin.
J'arrivais pas.
Vraiment pour des heures et des heures, tu te rappelles, couvert de sueur.
C'était
pas ça qu'il fallait faire, fallait que je tire un coup comme un lapin. Et là, deux heures après, tu jouissais pendant que j'étais sous la douche, que je dormais. Enfin oui, c'était un comble. C'est vrai, c'est ça que t'es en train de me dire. Tu m'encourages à pas
Non, c'est que toi, moi j'avais besoin. On peut pas expliquer tout ça, tu comprends? Alors que toi, ton problème, ta paranoïa, c'est qu'il faut tout expliquer. Là, il y a des choses que tu peux pas expliquer. C'est comme les discours. Quelquefois, tu baises et après, tout est réglé. Je sais pas pourquoi. T'as plus besoin des. Les corps parlent. Non, parce que les corps.
Je baise, je pars.
Parce que les corps.
Toutes les histoires que je te racontais, c'était que des histoires, c'était que virtuel. Il y a plein de choses qui t'intéressaient dans ce que je racontais. Je suis jamais vraiment arrivé à l'extase, mais il y a bien une fois ou deux, sois sincère. Dis-moi là, il n'écoutera pas. Dis-moi, est-ce que c'est vrai, plus que ça, mon pote. Plus que ça. Petit bonhomme, plus que ça.
Tu vois que tu parles un télo. À la fin, on arrive toujours terre à terre, on touche le sexe. Voilà, après tu lui dis qu'il est un animal.
Oui, son envie basique, il n'y a que ça. Il n'a pas de langage, tu ne peux pas savoir. Donc oui, moi, il y en a vouloir baiser, moi, il y en a vouloir manger. Bon, il y en a Marcus. Mais elle essaye de diversifier un petit peu tout ça. Et moi, avoir beaucoup de mal, parce que moi, posséder le langage.
Le langage, venez, on y va.
On est arrivé?
Bon, vas-y, moi, je vais rester, j'ai masturbé.
Mais non.
N'importe quoi.
Plus que ça.
Voilà, ça c'est le dernier tiers du film, hein, les rares moments où c'est à peu près détendu. Alors la toute fin contraste avec le début du film sur la 7e symphonie de Beethoven, un poster de 2001, l'Odyssée de l'espace accroché dans une chambre. On se retrouve au-dessus d'un jardin d'enfants avec une pelouse verte. La caméra tournoie au rythme d'un enfant qui s'amuse avec un tourniquet d'arrosage. La caméra s'en va dans les airs et là on assiste à une expérience qui mettrait les épileptiques plutôt dans l'embarras. Est-ce un bombardement de protons, grésillement, images blanches, alternatives? C'est une autre version du trip métaphysique de Kubrick, clairement. Alors si Noé insiste sur l'animalité dans ses films, la part de bestialité en l'homme, opposée à la morale, ça serait gratuit s'il n'y avait pas de mise en scène pour éclairer son point de vue. On pourrait reprocher à Noé de surligner la violence par des effets de mise en scène, mais c'est précisément ce qui fait la force de ses films. À mon sens, c'est un film à ranger dans la DVD Tech. Alors, Enter the Void, le trip d'un esprit dans Tokyo qui ne veut pas quitter la vie, promet encore des prouesses de mise en scène, un dosage de ce que certains appellent de la provocation, mais qu'on est pourtant capable d'accepter dans la littérature. Mais assurément, ça sera une œuvre à part, car tant qu'à filmer, autant le faire à la manière Noé, de temps en temps, mais en fichant un bon coup de pied dans le conformisme. Et ça sort aujourd'hui, donc... Alors, 30 copies, j'ai vu seulement, en France. C'est pas énorme.
Bah, ça reste un réalisateur assez confidentiel, pour pas dire marginal, dans le paysage du cinéma français, Gaspard Noé.
Et un réalisateur, en plus, dont les films ne peuvent passer à 20h30 sur la télévision.
Oui, celui-là est interdit au moins...
Irréversible, interdit au moins de 16 ans. Oui.
Voilà, bah, celui-là aussi, sans doute, Enter the Void, a priori, mais...
A priori, c'est sa limite, enfin... Oui. Il commence par là.
Et à noter que tu disais qu'il était très ami avec Yann Kounen, mais il est également ami avec un autre grand nom du cinéma français, Marc Caro, qui s'est chargé de concevoir les décors sur Enter the Void.
C'est une bonne chose.
Voilà, je pense que des quelques images qu'on a pu voir, ça annonce un film assez hypnotique, assez intéressant. Mais on va passer tout de suite à quelque chose de beaucoup plus lourd, de beaucoup moins intello et de beaucoup moins original. C'est bien entendu Iron Man. Donc après un premier film qui avait créé la surprise au moment de sa sortie, en nous faisant découvrir un nouveau super-héros plutôt charismatique, un Robert Downey Jr. particulièrement à l'aise dans la peau de l'arrogant Tony Stark, on était en droit d'espérer qu'un deuxième épisode soit à la hauteur de ce premier essai réussi, voire qu'il le surpasse, comme ce fut le cas pour les suites de Batman Begins, de Spider-Man, de X-Men ou même de Hulk. Alors dans ce dernier cas, c'était quand même dur de faire pire que le film de Ang Lee, mais quand même. En effet, dans le cas bien précis des films de super-héros, les premiers épisodes servent souvent à poser les origines d'un personnage et une fois cette mission accomplie, les suites éventuelles s'affranchissent de ce passage imposé pour jouer avec les différents éléments mis en place. Alors bien sûr, cela ne fonctionne pas à chaque fois et le contre-exemple parfait, c'est sans conteste le second opus des aventures des 4 Fantastiques par Tim Story. Déjà que le premier épisode était une purge et le second est encore pire. Mais bon, dans les autres cas que j'ai cités, quand un premier film a créé la surprise, sa suite, en général, emporte l'adhésion. Malheureusement, ce n'est pas exactement le cas avec Iron Man 2. Alors, l'histoire commence là où le précédent film s'achevait, avec le coming out face à la presse de Tony Stark, qui dévoile au monde son identité secrète.
Je ne me suis pas retrouvé devant vous depuis un moment, alors je vais rester dans les clous cette fois. D'après les rumeurs, j'aurais été impliqué dans les événements qui se sont déroulés sur l'autoroute et le toit de l'immeuble.
Excusez-moi, Monsieur Stark, mais espérez-vous vraiment nous faire croire que vous avez un garde en armure qui a surgi du ciel par magie, en dépit du fait que vous êtes l'exemple...
Je sais que c'est un peu étrange. Cela dit, c'est une chose de douter de la version officielle des faits, mais de là à porter de folles accusations ou à insinuer que je suis peut-être un super-héros...
Je n'ai pas dit que vous étiez un super-héros.
Ah non ? Tant mieux, parce que ça paraîtrait incongru et... fantastique... Je suis vraiment loin d'avoir l'étoffe d'un héros. J'ai même une liste longue comme le bras de défauts et diverses erreurs. La plupart publiques.
Lis seulement tes deux yeux.
En vérité, je suis Iron Man.
Voilà, donc cette annonce est reprise intégralement donc, dans ce deuxième épisode. Et alors que les choses prennent une tournure particulière pour Tony Stark, eh bien, de l'autre côté de l'Atlantique, on découvre un nouvel ennemi qui attend patiemment dans l'ombre et qui s'apprête à prendre sa revanche sur la famille Stark. Alors avec cette nouvelle aventure d'Iron Man, Jon Favreau, le réalisateur, change un petit peu la donne. Dès le début du film, le personnage s'avère être en danger de mort à cause de son armure. La source d'énergie nécessaire à l'alimenter empoisonne peu à peu Tony, qui peut malheureusement pas se passer d'elle étant donné qu'elle lui sauve la vie depuis le premier épisode. Elle empêche que des éclats d'obus logés dans sa poitrine atteignent son cœur. D'autre part, Iron Man inquiète le gouvernement américain qui souhaiterait le voir se mettre au service de l'armée. Et donc l'arrivée de ce nouvel ennemi, Ivan Vanko, en qui les aficionados de la BD verront un mélange de la dynamo pourpre et de l'homme au fouet, va compliquer encore un peu le tableau. Donc le scénario de ce nouvel opus s'avère plus bavard que le précédent, même si l'action conserve une place importante et que le spectacle est à nouveau au rendez-vous. Mais bon, une partie du charme du premier film a disparu. Le côté orgueilleux, puéril et flambeur de Stark n'est plus aussi bien dosé et le personnage perd un petit peu de son intérêt, même s'il reste à la fois sympathique et pathétique. Tiraillé entre l'envie de profiter de ses derniers jours et la pression que son entourage, que le gouvernement et le SHIELD, une agence secrète, eh bien cette pression qu'ils lui font subir pour qu'il se mette au service de la population, eh bien Tony Stark se retrouve pour la seconde fois surexposé au détriment des autres personnages qui peinent un peu à exister. Donc le plus touché par ce désintéressement du scénario, c'est sans conteste le personnage campé par Mickey Rourke, le méchant qui prête sa gueule burinée à Ivan Vanko. À part quelques lignes de dialogue en russe et un costume dans lequel n'importe quel catcheur pas trop mauvais aurait pu se glisser, Rourke n'a pas vraiment une place prépondérante. Mais qu'il se rassure, c'est aussi le cas de Don Cheadle dans le rôle de War Machine, qui s'avère être purement anecdotique. C'est aussi le lot de Scarlett Johansson et de Samuel L. Jackson, qui font le déplacement uniquement pour annoncer, une fois de plus, le futur crossover mondialement attendu des Vengeurs. Un projet que plusieurs allusions pas vraiment discrètes et autres séquences post-génériques viennent appuyer. Alors puisqu'on parle des Vengeurs, autant nous intéresser tout de suite au principal sujet que soulève ce nouvel Iron Man. Comme chacun sait, le film de super-héros a trouvé depuis une dizaine d'années une nouvelle jeunesse grâce à quelques cinéastes particulièrement inspirés comme Bryan Singer ou Sam Raimi. Mais aujourd'hui, après une bonne vingtaine de films estampillés Marvel, le genre commence à sérieusement lasser. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, donc c'est ce que prévoit de faire le jeune studio Marvel en 2012, avec ce crossover qui réunira aux dernières nouvelles Iron Man, Thor, Captain America, Nick Fury, Hulk, et qui sais-je d'autre encore, et qui réutilisera les castings et les autres éléments visuels et narratifs posés dans les films consacrés aux différents personnages. Donc avec ce projet, et si le dieu des blockbusters vient en aide aux scénaristes, on devrait voir naître pour la première fois sur grand écran un univers qui engloberait plusieurs franchises pour donner naissance à une autre franchise. Donc une première au cinéma, mais un procédé très courant dans la bande dessinée, en particulier chez Marvel, qui a fait naître de nombreux arcs narratifs mémorables comme Civil War ou House of M. Mais bon, rien n'est encore fait, à part quelques signatures de contrats et des annonces régulières dans la presse et dans les productions Marvel. Il y a quand même de fortes chances pour que ce film, qui se devra d'être novateur, pour renouveler un petit peu le genre, eh bien, il y a de fortes chances pour que ce soit surtout un bon gros produit commercial calibré qui plongera toute une génération de lecteurs de Special Strange dans la dépression. Voilà, donc pour en revenir à Iron Man 2, le film de Jon Favreau n'est pas déplaisant à suivre, même si l'ennui pointe parfois le bout de son nez. Cette suite s'avère malheureusement moins fun, moins bien rythmée et moins généreuse que le premier opus qu'elle vient finalement prolonger sans y apporter beaucoup d'éléments neufs. Les comédiens sont plutôt investis, mais ils ne renouvellent pas vraiment les personnages et les nouveaux venus ont tellement peu de place pour s'imposer qu'ils en deviennent transparents. Reste quelques bonnes scènes d'action, quelques gags plutôt réjouissants et des effets spéciaux pas vraiment originaux, mais toujours aussi plaisants à découvrir. Voilà, et espérons qu'à l'avenir, cette franchise acquiert une certaine maturité et qu'on ait enfin droit à une vraie suite « Bigger and Louder ». Voilà un extrait de la bande originale de Iron Man 2. Alors, c'était bien sûr AC/DC, vous l'avez reconnu, The Razor Edge. À noter que toute la bande originale de ce film est composée de titres de AC/DC, ce qui est en fait assez rare dans le cinéma, que toute une bande originale soit consacrée à un groupe et que ce ne soit pas de la musique originale. Voilà, donc c'était un petit interlude de métal dans Cinérama.
Et qui nous a permis de faire la liaison avec Paris où se trouve Marc Batty. Marc Batty, bonjour.
Et bonjour.
Alors vous êtes le directeur du Festival des Très Courts, une manifestation, c'est la 12e édition, une manifestation qui se déroule dans plusieurs pays. Racontez-nous ça, c'est 80 villes pardon, dans le monde entier.
Oui, en fait, c'est un grand rendez-vous qui a lieu chaque année à la même période, début mai. Là, ça sera donc le prochain week-end, 7, 8, 9 mai, où le Festival des Très Courts ouvre ses portes dans, comme vous dites, 80 villes, dont un tiers en France et le reste dans une quinzaine de pays.
Alors donc, c'est une compétition, on le rappelle, hein, il y aura trois programmes différents parmi cette sélection qui est internationale. Et ce sont des films donc de moins de 3 minutes, alors hors générique et hors titre.
Exactement, donc c'est un festival, il y a des compétitions, il y en a plusieurs. Vous avez parlé de la compétition internationale avec trois programmes, 51 films qui seront présentés. Alors il faut comprendre effectivement que c'est des très courts, donc 51 films, ça représente en gros 2 heures et demie de temps. Mmh. Voilà, il y a d'autres compétitions comme la compétition Parole de Femme, et puis d'autres programmes aussi hors compétition, des films en musique, des films, on a une compétition un peu particulière qui s'appelle Ils ont osé, où c'est des films à l'humour, on va dire, assez décalés et pas politiquement corrects. Et voilà, des tas de petites surprises comme ça.
Et est-ce qu'on peut dire d'ailleurs hein, sur l'ensemble de ces 51 films, c'est qu'on va dans tous les genres, hein, c'est fiction, documentaire, animation, ça peut être de la synthèse
Voilà, les 51 films de la compétition internationale, c'est effectivement tous les genres, fiction, animation, il y a même du documentaire, de l'animation traditionnelle, de la 3D, des choses sérieuses, des choses drôles, il y a vraiment de tout. Le seul point commun, c'est le format, 3 minutes max, hors générique.
Alors la formule est plutôt réussie, hein, sinon il n'y aurait pas plus de 80 villes dans le monde entier qui choisiraient bien de passer cette programmation. Alors comment ça se passe pour le jury? Comment fait-il ses choix et à quel moment il les fait en fait?
Vous voulez dire le jury ou les sélectionneurs?
Le jury, parce que parce qu'il y a un jury.
Le travail des sélectionneurs, c'est de choisir parmi près d'un millier de films qu'on reçoit tout au long de l'année, pour en sélectionner ceux qu'on considère être les meilleurs ou les plus intéressants, et les regrouper en différents programmes, qu'ensuite on va proposer à un jury, qui lui, un jury de professionnels, qui sera lui amené à définir quels seront les lauréats, donc les primés.
Mmh. Mais est-ce qu'il le fait pendant le week-end? C'est ça que je n'avais pas compris au fait. Il le fait durant ce week-end ou il le fait
Alors,
avant?
En fait, sur les très courts, on s'adapte à la situation du fait qu'on est dans plein lieu en même temps. Mmh. Le jury, il y en a deux. Il y en a déjà un qui est sur Montpellier, un autre qui est sur Paris. À Paris, c'est la compétition internationale. Le jury s'est réuni il y a une semaine environ en séance privée pendant lesquelles ils ont pu voir tous les films et définir leur palmarès, qui sera annoncé vendredi soir à Paris. Mmh. Et à Montpellier, c'est le jury Parole de Femmes qui a également vu les films juste un petit peu avant et qui sera sur Salle Rabelais vendredi soir aussi, au même moment qu'à Paris, pour remettre les prix Parole de Femmes.
Alors là, la présidente du jury, ce sera Zoé Valdès, hein, qui sera présente effectivement à Montpellier Salle Rabelais, remise des prix à 20h45 avec une projection des films qui ont été retenus à 19h45. 22 films cette fois-ci en compétition. Et là, l'originalité en fait hein, de cette programmation, c'est que ce sont des films alors faits par des hommes ou des femmes, mais il faut absolument que ça parle, ou que ça donne un point de vue féminin.
Voilà, c'est des films qui tournent autour de points de vue féminins, d'histoires de femmes. Une femme est au centre du sujet. En gros, les deux tiers de ces films sont réalisés par des femmes. On va dire qu'il y en a peut-être un petit tiers ou un quart où c'est quand même des films réalisés par des hommes, mais qui parlent vraiment principalement de sujets de femmes.
Alors, on précise aussi qu'il n'y a pas seulement cette sélection internationale et puis Parole de Femmes, mais vous laissez aussi la place, en tout cas à Montpellier c'est le cas, hein, le vendredi 7 et le samedi 8 à Around, dites-le en musique, suivi de la sélection Armagnac. Alors ça, ce sont des films qui sont pris localement, hein, c'est ça ?
Pour ce qui concerne la sélection Armagnac, effectivement c'est une sélection locale de réalisateurs de la Montpellier région. Pour ce qui moitié de la sélection. Around the Trécourt, c'est toutes les sélections qui sont hors compétition, en fait. Donc, il y en a beaucoup. Là, on en a parlé, on en parle de deux. Il y a celle donc d'Armagnac, il y a Dites-le en musique. C'est une sélection de films où la bande son, où le sujet central tourne autour du son et de la musique. Donc, c'est vraiment des choses assez musicales. Et ça passera en plein air, en fait. Hein, donc, Place de la Comédie, le soir, le vendredi soir, je crois.
Oui, c'est à 23h.
Voilà, donc, ouvert à tous. Il y a une petite heure de programmation de films autour de la musique et du son.
Eh bien, en tout cas, merci Marc Batty. Hein, donc, je rappelle, vous êtes directeur donc, de ce festival international des Trécourts. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle.
Merci à vous.
Et je vous en prie. Et donc, eh bien, je vais donner juste les horaires. Ça démarrera donc à 18h30 avec l'ouverture du festival, en tout cas à Montpellier-Saint-Rabelais. 19h45, c'est Paroles de femmes, on en a déjà parlé. 20h45, ce sera la remise des prix. Et puis ensuite, à 21h15, il y aura la première sélection internationale. Et ensuite, eh bien, ce sera le lendemain, samedi 8, à 20h, la sélection internationale 2. Et à 22h, la sélection internationale 3. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Que c'est pas très cher, c'est 2€ l'entrée. Ah, je crois que Marc Batty est toujours à l'antenne.
C'était juste pour préciser que, parce que c'est toute la programmation dans toutes les villes, vous pouvez la retrouver sur trécourt.com, ville par ville, vous aurez tous les horaires et les détails. C'est quand même plus pratique aussi.
C'est vrai, c'est une bonne chose de le rappeler. Merci beaucoup. Voilà. Et donc 2€, oui, pour le prix d'entrée. Et à noter aussi que la particularité de Montpellier, c'est que ça va au-delà du 8 ou 9 mai, ce qui est le cas dans les autres villes, puisque le lundi 10, ça se passera eh bien, à la Brasserie Le Dôme à 20h et ce sera gratuit. Vous pourrez voir la sélection internationale 2 et puis Around, ils ont osé. Donc ça, c'est le hors compétition et ce sera le cas aussi à l'université Paul Valéry dans l'Amphi-H le mercredi 12 à 20h donc, pour la sélection Around, ils ont osé. Donc toutes les infos sur trécourt.com, je crois que c'est ça. Voilà, on en a fini. On remercie Marc Batty et on reprend eh bien, le cours de l'émission Cinérama avec Life During Wartime de Todd Solondz. Alors moi, j'ai toujours apprécié les films de Todd Solondz. Son Bienvenue dans la Jungle en 96 qui racontait l'histoire d'une jeune fille souffre-douleur de ses petits camarades et sa difficulté à entrer dans le monde adulte. Son Happiness en 98 avec Philip Seymour Hoffman, le portrait d'une famille américaine, son aspiration au bonheur, mais surtout ses désillusions, ses névroses et ses échecs. Un film qui empruntait le chemin buriné par Robert Altman et son Shortcut avec un Solondz beaucoup plus pessimiste et sarcastique. Mais son Life During Wartime qui reprend les personnages de Happiness quelques années après a peut-être quelque chose d'artificiel et cela tient avant tout aux personnages qui manquent de vraisemblance et d'épaisseur. Alors on retrouve les sœurs d'Happiness, Joy Luton qui croit changer les autres et qui s'aperçoit que son petit copain n'est pas totalement à l'abri de ses diverses dépendances qui vont du crack aux persécutions sexuelles. Trish l'aînée qui a 3 enfants et espère refaire sa vie avec un homme mûr et enfin normal. Et son plus jeune fils eh bien, est un philosophe en puissance qui va faire sa bar mitzvah à 13 ans. Il y a enfin Hélène devenue scénariste à Hollywood mais peu satisfaite de son sort et qui est en couple, apprend-on, avec Ken Yu. Donc sous-entendu forcément Keanu Reeves, mais ça ne la rend pas plus heureuse que ça. Alors on les voit évoluer surtout Joy et on distingue très vite leur névrose. Eh bien sinon ça ne serait pas drôle. Et Life During Wartime, à force de sarcasme et d'allonger le portrait de la famille américaine bancale, parvient tout de même à faire rire. Mais on aurait aimé plus de liberté d'appréciation pour le spectateur alors que tout semble très figé. Il reste néanmoins 2 personnages qui valent le détour. D'abord le mari de la sœur aînée Trish qui vient de purger sa peine pour attouchement sexuel envers un de ses fils. Croit à des souffrances, des vraies, et qui fera tout pour demander pardon à son fils aîné. Il rencontrera sur son passage Charlotte Rampling, en vieille femme désabusée à la recherche du plaisir fugace, faute de mieux. Alors pardonner, on l'entend quasiment à chaque séquence, et au travers de ses portraits, le réalisateur vise la dissertation philosophico-religieuse, et parfois avec quelques maladresses, même s'il y a de brillantes séquences, et qu'au final, avec tant de sarcasme, eh bien on peut quand même rire. Voilà. Donc, Life During Wartime de Todd Solondz est en VO original sous-titré au Diagonal à Montpellier.
Alors, on passe à nouveau, on sort de, du film, film d'art d'une certaine façon pour s'intéresser encore une fois au blockbuster. Alors, le choc des titans. Film qui est sorti il y a maintenant presque un mois, mais bon, comme j'étais parti en vacances à ce moment-là et qu'il ne faut pas compter sur toi, Vincent, pour aller voir ce genre de film. Nous n'en avions pas encore parlé dans l'émission, pourtant difficile de passer à côté de la campagne promo homérique déployée pour vanter ce nouveau long métrage du réalisateur de Danny the Dog et de l'incroyable Hulk. Alors si j'ai un peu traîné des pieds avant d'aller voir le choc des titans, c'est qu'un consensus s'est instauré autour de ce film depuis sa sortie en salle. Les seuls échos et critiques qui me sont parvenus aux oreilles étaient tellement négatifs que j'ai relégué le film tout en haut de ma liste de trucs à ne pas faire avant de mourir. Mais comme il faut bien que j'occupe mon temps de parole chaque semaine et que j'avais le choix entre Camping 2 et ça, eh bien je suis allé au cinéma en traînant un peu des pieds. Eh bien m'en a pris puisque loin d'être le navet dont tout le monde s'est moqué, le choc des titans s'est avéré être plutôt une bonne surprise. Alors pas un chef-d'œuvre, rassurez-vous, ni même un bon film, mais un honnête divertissement servi par des images et des effets spéciaux plutôt réussis et un scénario qui joue sur le kitsch et la nostalgie d'un certain âge d'or des péplums mythologiques. Donc, le choc des titans, c'est le remake d'un film de la MGM réalisé en 1981 par Desmond Davis, qui bénéficiait d'effets spéciaux signés par le grand Ray Harryhausen. Ce fut d'ailleurs le dernier film sur lequel Harryhausen travailla en tant que responsable des effets visuels. Son savoir-faire dans le domaine de l'animation, de la stop-motion et de l'incrustation argentique commençait à être un petit peu obsolète face à l'apparition des effets spéciaux numériques qui se développent de plus en plus au cours des années 80. Alors aujourd'hui, le choc des titans version 1980 est passablement daté par rapport à d'autres films de la même époque, voire des films antérieurs comme Star Wars qui était sorti 2 ans plus tôt. Et cette histoire a bénéficié d'une cure de jouvence numérique qui va sans doute réconcilier Hollywood avec la mythologie. Donc loin de coller aux versions d'Homère, d'Hésiode ou de Phéricide d'Athènes, le choc des titans version 2010 prend ses aises avec le canon et réinvente le mythe, comme c'était déjà le cas avec le 3 de Wolfgang Petersen. Exit Zeus changé en pluie d'or, oublier les véritables motivations de Persée et place à l'imagination des scénaristes hollywoodiens. Alors le film s'ouvre sur la découverte par un pêcheur d'un cercueil flottant au beau milieu de la mer, et à l'intérieur une belle jeune femme morte et son nouveau-né que le pêcheur va adopter et élever comme son fils. Donc quelques années plus tard, Persée, car c'était lui le nouveau-né, voit sa famille adoptive périr par la faute d'Hadès. Il est fait prisonnier par des soldats et traîné au château du roi d'Argos, et Persée est témoin d'une malédiction lancée par le dieu des enfers sur les humains, qui sont devenus trop confiants et plus assez serviles au goût des immortels. Alors pour sauver la cité, Persée va devoir partir en guerre contre Hadès et essayer de vaincre sa plus terrible créature, le Kraken. Alors dans le rôle principal, Sam Worthington rempile pour de la superproduction après Terminator Renaissance et Avatar. Mais bon, la direction d'acteur de Louis Leterrier laisse un petit peu à désirer. Notre nouvelle superstar s'avère un peu fade et peine à convaincre dans le rôle du héros mythique. Heureusement, certains de ses partenaires sauvent les meubles en assumant leur rôle avec sérieux et dévotion. Donc Mads Mikkelsen, Liam Neeson, Ralph Fiennes et Pete Postlethwaite. Même s'ils doivent composer avec des personnages à l'écriture plutôt inégale et au maquillage souvent surchargé, eh bien tous ces acteurs s'en sortent plutôt bien. Mais le point fort de ce film, c'est bien sûr ses séquences d'action et ses effets spéciaux démentiels. Donc dans l'ensemble, la direction artistique évite la plupart des pièges dans lesquels le côté péplum fantasy aurait pu faire sombrer le long métrage. Les créatures sont assez originales, même si elles ne supportent pas la comparaison avec celles qu'on peut découvrir dans les films de Guillermo del Toro, par exemple. Le kraken titanesque, les scorpions géants, les djinns, les sorcières, méduses, pégases. En fait, ce sont toutes ces créatures qui sont finalement les véritables héros du choc des titans. Et si on perd un peu de la poésie que faisaient naître les séquences saccadées et old school de Harryhausen, on gagne en efficacité, en spectaculaire. Donc seuls les dieux avec leurs attributs caricaturaux, une armure scintillante pour Zeus, une cape de fumée pour Hadès, eh bien seuls les dieux semblent venir d'un autre âge, un âge où le bon goût n'avait pas encore été inventé. Donc un élément de décor que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est ce choix d'avoir donné à l'Olympe une architecture assez étonnante, un mélange entre classicisme grec avec ses colonnes, ses temples, et ultra-modernité avec ses flèches dressées vers le ciel qu'on dirait sorties d'un film de science-fiction. Donc voilà, le reste du décor ne sont pas vraiment notables, mais cette vision de l'Olympe, moi, m'a semblé intéressante. Donc au final, le choc des titans n'est pas le ratage annoncé, même s'il ne révolutionnera en rien un genre qui est aujourd'hui tombé en désuétude. Pour conclure, deux choses. D'abord, un conseil, n'allez pas voir ce film en 3D. Le gonflage en relief est survenu à la toute fin de la post-production pour surfer sur le succès en salle d'Avatar. Et le film n'est définitivement pas pensé pour un visionnage avec les fameuses lunettes qu'on essaye aujourd'hui de nous refourguer à toutes les sauces. Et ensuite, une petite remarque, si le choc des titans ne devrait pas rester bien longtemps dans les mémoires, il aura au moins eu le mérite de prouver que les mythologies grecques et latines peuvent encore aujourd'hui faire naître le grand spectacle et attiser l'imagination des créateurs de monstres en tout genre sans pour autant sombrer dans le kitsch. Voilà, donc le choc des titans, ça passe en version française, bien sûr, dans les multiplex, Gaumont et autres royales.
Toi, tu l'as vu en 3D alors?
Non, bah, justement, j'avais été prévenu de cette... j'étais au courant que ce gonflage en 3D était arrivé assez tard dans l'élaboration du film. Et donc, non, je suis allé voir la version.
Et ça peut être vraiment gênant ou ça peut être une petite valeur ajoutée, non?
Bah, le fait qu'il y ait le procédé 3D, c'est quand même... ça gêne un petit peu. Enfin, le fait d'avoir des lunettes, c'est pas non plus extrêmement confortable. Si en plus, le film n'a aucun intérêt à être vu en 3D, oui, il vaut mieux voir la version plate. Voilà, mais... est-ce que je vous conseille le choc des titans? Si vous avez vraiment rien d'autre à faire, voilà, non, quelques scènes spectaculaires et puis un beau kraken.
Les auditeurs jugeront après avoir entendu ta chronique. Alors on passe à la partie interview de Cinérama. Alors la semaine dernière, on avait déjà évoqué donc La Chine est encore loin de Malek Bensmaïl à l'occasion de sa venue à Montpellier puisqu'il présentait son film, donc c'était jeudi dernier. Et il se trouve donc qu'à cette occasion, eh bien je l'ai rencontré. Alors je lui ai posé un certain nombre de questions. Comme l'interview durait plus de 30 minutes, je me suis limité à prendre simplement 4 minutes. Alors pour rappeler, La Chine est encore loin, donc c'était un documentaire qu'il a fait il y a un peu moins de 5 ans. Et il retourne dans un petit village chaoui où le 1er novembre 54, eh bien, il y a eu le meurtre d'un caïd et d'un instituteur. Et ça a mis le feu à l'Algérie et ça a déclenché la guerre de libération. Alors en revanche, s'il revient dans ce village chaoui pour poser des questions à ceux qui ont vécu cet événement, eh bien, il en profite aussi pour suivre les élèves qui sont confrontés à trois types d'enseignement. L'enseignement dans les écoles coraniques, donc c'est le Coran avec l'arabe littéraire, et puis c'est le cas aussi à l'école parce que eux ils ont une langue kabyle, c'est celle qu'ils parlent quand ils parlent à leurs copains et à leurs parents, mais ils apprennent l'arabe et le français à l'école. On écoute Malek Bensmaïl.
Le projet, c'était pas du tout d'ailleurs le déclenchement de la révolution. Le projet au départ, c'était encore une fois de rentrer dans une institution algérienne, parce que c'est ce que j'essaye de faire depuis une dizaine d'années. C'est à chaque fois de rentrer ou dans les arcanes du pouvoir, ou dans un QG de campagne électorale, ou dans un hôpital psychiatrique. Et là, cette fois, je voulais rentrer dans l'école. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, Après Aliénation, qui est un film sur un univers, l'univers de la folie, c'est pas un film sur la folie, mais sur un univers, je dirais, de la psychiatrie, je me suis rendu compte que les malades, qui nous ressemblent d'ailleurs, c'était pas les grandes pathologies, c'est des gens vraiment qui ont des petites décompensations, je me suis rendu compte à quel point, que ce soit à l'intérieur de l'hôpital ou dans la ville, à Constantine, ma ville natale, les délires étaient politiques ou religieux. Alors, c'est pas uniquement ma ville, c'est tout le territoire algérien. Et à chaque fois qu'il y a des délires, ou des coups de gueule, pour être même plus simple, soit c'est porté sur l'État-nation, soit c'est porté sur le FLN, soit c'est porté sur la religion, parfois après au niveau... voilà. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, d'où vient cette matière ? C'est intéressant de se dire comment ça se fait que les 90% des délires soient dans un pays comme le nôtre, soient complètement omnibulé par l'État, par le FLN, par la guerre d'Algérie, et par l'islamisme, par la religion, par le Coran. Et du coup, l'idée était de tenter de rentrer à l'intérieur de l'école pour comprendre ce qu'est l'enfance, d'abord comment filmer l'enfance, et ce que transmettent d'abord le monde des adultes, quel qu'il soit, vis-à-vis du monde de l'enfance, et aussi comment est transmis aujourd'hui au sein d'une école, qu'est-ce qui est transmis. Et du coup, ça c'était l'idée première, donc l'école, l'institution. Et puis c'était pas suffisant, je me suis dit, bon, l'école en soi, c'est comme beaucoup de cinéastes occidentaux le font, c'est-à-dire Wiseman, Depardon, Philibert. En fait, ils enferment un film dans l'institution et puis basta. Et en fait, je trouve que non, l'Algérie, justement, et nos pays du Maghreb, le monde arabe, il y a cette idée où il y a une vraie population qui gravite autour de l'institution. Et j'aime beaucoup cette idée où il y a des vrais micro-mouvements entre l'institution qui représente une certaine, je dirais, un certain pouvoir politique, administratif, bureaucratique, etc., et la population qui est désœuvrée, qui est en demande, etc. Donc il y a un véritable mouvement, et le principe, c'était voilà, d'inscrire le film dans une institution, mais en lien avec un village. Et quand j'ai commencé à chercher une école primaire, j'ai pensé à mon école primaire de ma ville natale, donc à Constantine, qui s'appelait d'ailleurs Jeanne d'Arc à l'époque quand j'étais petit. Et maintenant, elle porte le nom d'un révolutionnaire. Et puis, bon, comme j'avais filmé Aliénation et que j'avais filmé la ville de Constantine, j'aime bien aussi changer de décor, enregistrer des topographies, des géographies différentes en Algérie pour montrer cette diversité des paysages. Et m'est venue cette idée, par la suite, en cherchant des archives, je suis tombé sur ce fameux attentat de 54 du couple Monroe, qui a été une histoire incroyable à l'époque, et qui a été vraiment l'un des déclencheurs d'une guerre de cette année. Voilà. Donc je suis revenu, j'ai fait un repérage, j'ai été voir cette école que j'ai trouvée très belle, qui était un croisement comme ça d'un carrefour, avec des paysages extraordinaires. Je suis tombé sur ces deux instituteurs que j'ai trouvé absolument fabuleux. Les enfants que j'avais vus une année avant, il y avait de très belles tronches, enfin, je sentais qu'ils étaient espiègles, malins, etc. Et puis ça correspondait un peu au film. Et je savais pertinemment que le village, c'était un peu plus compliqué d'y accéder, parce que les Chahuis, c'est très fermé, société extrêmement fermée, frondeuse, donc ils ne nous laissent pas rentrer facilement. Et voilà. Et donc l'idée, c'était de planter ma caméra pendant une année, c'est-à-dire les quatre saisons, et filmer au fur et à mesure, comme ça, les grandes étapes de cette année scolaire. Voilà.
Ce qu'on entendait, eh bien, c'est carrément l'hymne algérien que les enfants doivent se taper tous les matins. Et oui, c'est comme ça. Et ils montent le drapeau. Voilà, donc La Chine est encore loin. Eh bien, c'est un documentaire à voir au Diagonal Capitole.
Voilà, les événements. On va passer aux événements qui sont nombreux cette semaine. Alors déjà dès ce soir, vous pourrez aller assister à une séance spéciale de Dans ses yeux de Juan José Campanella. Ce sera une séance suivie d'un débat animé par le collectif Alba Amérique Latine dans le cadre de la quinzaine Amérique Latine. Ça se passe au Diagonal Capitole, c'est à 20h. Donc projection suivie d'un débat de Dans ses yeux. Demain, vous aurez le choix, puisque vous pourrez aller à 20h assister à une séance spéciale au Diagonal, une avant-première, pardon, du film Les Secrets de Raja Amari. Raja Amari sera présent pour débattre avec le public après le film. Ça, c'est demain à 20h au Diagonal Capitole. Toujours demain à 20h30 au Royal, par contre, vous avez une autre avant-première du film Eighth Wonderland, 8e Wonderland, d'un film de Nicolas Aberny et Jean Marr, dont un des deux réalisateurs sera présent pour animer un débat également. Ça, c'est pour jeudi, j'en oublie pas. Très bien. Ensuite, on passe à vendredi. Donc vendredi à 19h50 et à 22h, vous pourrez aller assister à une avant-première du reboot de Freddy. Donc remake du film original de Wes Craven, Freddy, les griffes de la nuit. C'est un reboot de la franchise signé Samuel Bayer avec dans le rôle du boogeyman avec ses griffes. C'est Jackie Earl Haley qu'on a pu voir dans Watchmen dans le rôle de Rorschach. Ça c'est vendredi 7 au Multiplex à 19h50 et 22h, toujours vendredi, vous avez l'ouverture donc du festival des très courts qu'on a annoncé. Donc ça se tient de vendredi à mercredi, on en a parlé déjà longuement. Voilà. Si vous voulez plus d'infos, c'est sur le site internet
filmtrescourts.com.
Ensuite, une séance unique dimanche, alors ça c'est à Utopia, un film récolte sanglante esclavage à l'italienne, donc un film qui pose des questions sur la production de nourriture. Ce sera suivi d'une rencontre avec Nicolas Duns, un paysan qui est membre de la Confédération paysanne et qui, voilà, Utopia propose de venir déguster des fruits et des viennoiseries dès 9h30 pour petit déjeuner à Utopia. Enfin, lundi dernier événement, si je n'en oublie pas, vous avez une projection avant-première de Estomago, un film de Marcos Jorge, qui sera présent également pour animer un débat. Donc voilà, ça c'est lundi à 20h30 au Diagonal Capitole. J'en oublie un. Je savais que j'allais l'oublier. Ah ben c'est toujours lundi. C'est une soirée unique à Utopia, une soirée du film Catacali, un film sur
Maria González.
Non, je vais le retrouver.
Gutiérrez.
Voilà, un Catacali, Inde du Sud, un film de Christiane Balland. Voilà, sur la danse indienne, le Catacali. Et il y aura une démonstration après la projection, voilà, une petite prestation de Catacali par Maryse Noiseux. Utopia vous conseille de réserver vos places à l'avance, puisque c'est une séance unique. Et voilà, ben c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour des événements. Vincent, mais des choses à rajouter ?
Non, tu as bien fait. Non, je crois qu'il n'y a pas d'autres événements, en tout cas à ma connaissance. À noter quand même les deux avant-premières demain, c'est un peu dommage.
Voilà, deux avant-premières demain, deux séances uniques lundi. Ouais. Il va falloir faire votre choix. Je rappelle aussi la sortie en salle donc des Chaussons Rouges pour quatre séances pour le moment. Un film à ne pas rater, donc c'est jeudi, vendredi, dimanche et mardi à 17h30 ou 17h. Vérifiez ça sur le programme du Diagonal.
Voilà, c'était Cinérama, émission du mercredi 5 mai. Voilà, ben on se retrouve la semaine prochaine. Alors, avec quoi au sommaire, pas évident.
Sans doute une petite critique du dernier Gaspard Noé. Enfin, moi, j'irai le voir, en tout cas, d'ici mercredi.
Je compte aller le voir aussi.
Un petit pamphlet sur le début du Festival de Cannes, qui va s'ouvrir mercredi prochain également, et sur la programmation ô combien originale encore de cette année. Et puis on verra en fonction de ce qui sort, des avant-premières que nous pourrons peut-être aller voir.
Et oui, au moins une sur deux. Voilà. Ou alors on se partagera l'une ou l'autre. À noter qu'à la fin du générique, on va entendre, alors non pas un extrait de film cette fois-ci, mais l'extrait d'un documentaire sur un réalisateur. Et ce réalisateur, c'est Mocky. Mocky aux prises avec un de ses vieux chefs opérateurs qui lui apprend que Mocky, finalement, au bout de 40 films, ne connaît rien à la lumière. Voilà. Donc ça, ce sera un extrait de... Je crois que c'était paru dans Striptease, ou édité, on dit, hein, pour la vidéo, édité dans la série Striptease. Et puis, sinon, il faut remercier Julia et Loulou, qui étaient à la technique aujourd'hui. Voilà, merci Martin.
Merci Vincent, à la semaine prochaine.
Pour faire un plan comme ça, tu veux rigoler, j'en ai fait 10 000.
T'en as pas fait 10 000.
10 000, tu veux que je montrerai?
Non, je connais tous tes films.
Ouais, j'ai fait de la mer, mais plein de mer.
Ouais, et il y en a un particulièrement où vous êtes dans le noir, on ne vous a même pas parlé. Je ne veux pas le citer, le film, je connais.
C'est pas possible de travailler.
Tout ça, ça n'arriverait pas si tu ne disais rien.
Comment si je disais rien?
Rien.
Tu n'as rien compris? Tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire et tu ne comprends pas?
Non, tu es d'une mauvaise foi remarquable.
Qu'est-ce que je fais en ce moment? Un plan où elle descend là, un autre plan qui fait là.
C'est pas le problème. Le problème, c'est que simplement, on doit te mettre de la lumière sur le visage. Voilà, c'est tout.
Cinérama.
Et alors, pourquoi il n'y a pas quelqu'un avec une batterie ici?
Non, mais tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul.
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Non, c'est le 14. Non,
le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers,
c'est le 18. Alors, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.